Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question des miracles. Savoir vraiment si les miracles sont des signes que Dieu nous donne ou si ce sont simplement des superstitions, des illusions. Ça arrive, il y a de faux miracles. Oui, beaucoup de gens sont trop crédules, je crois. Nous verrons qu'il y a vraiment de vrais miracles. Il en sera question aujourd'hui et nous essaierons de voir ce que Dieu veut nous dire à travers ça. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est d'ailleurs aujourd'hui le 19 septembre, la fête de Saint-Janvier, évêque et martyr au 4e siècle. C'est un Napolitain, évêque à Naples. Parmi les 50 patrons de Naples, ils ont beaucoup de patrons à Naples. Eh bien, Saint-Janvier, cet évêque du 4e siècle, martyr, arrive en tête de liste sur le personnage lui-même. Toutefois, les renseignements sont plutôt rares et imprécis. On a quand même une belle fresque, son portrait, dans des catacombes là-bas. Il aurait été, en fait, évêque de Bénévent dans le sud de l'Italie. Et il serait mort martyr sous l'empereur Constance avec 6 compagnons. Et sa renommée universelle vient de ce fameux miracle du sang. Tout le monde a entendu parler de ça, je crois. Et bon, on va en parler probablement dans les journaux aujourd'hui ou demain ou après-demain. Si le sang qui est contenu dans de petites fioles dans un reliquaire, c'est liquéfié et a bouillonné. Étrange miracle. Étrange chose. Dans la cathédrale de Naples, il y a une chapelle de Saint-Janvier. Et on conserve précieusement dans 2 ampoules, en fait, 2 ampoules de verre, c'est très ancien, hein, fixées à un reliquaire métallique, on conserve le sang, donc, de ce martyr qui a versé son sang, qui a été jusqu'au bout de son âme. Le sang, je vous l'ai dit souvent, dans la symbolique hébraïque, juive, de l'Ancien Testament, le sang, c'est l'âme. Je vous rappelle, les témoins de Jéhovah, qui sont très attachés à la lettre, croient encore aujourd'hui qu'il ne faut pas faire de transfusion de sang, car ce serait faire une transfusion de l'âme. C'est un peu étrange. Je ne suis pas d'accord. Mais reste que le sang, c'est le symbole de l'âme. Et chaque année, à date fixe, parfois ça arrive 18 fois, hein, la masse de ce sang se liquéfie, elle entre en ébullition. Et même, elle augmente, la masse augmente momentanément, de volume. Et de la sorte, la substance qui est dure, rouge foncé, qui est renfermée dans les ampoules, subit des variations volumétriques. Parfois, le récipient semble plein, parfois, il paraît vide, à peu près au tiers. On dit que, et c'est pas vérifié de façon absolument scientifique, ça, on dit que le poids change en fonction du volume. On a fait des tentatives d'expérience là-dessus, en particulier en 1902, et qu'on dit que les variations là, sont de 27 grammes. Bon, peu importe. Sur ces faits, les interprétations sont multiples. Ce phénomène, absolument célèbre dans toute l'Italie et dans le monde entier d'ailleurs, s'explique difficilement. C'est pas possible d'expliquer ça par des causes naturelles. Je vous en parlerai à la fin de l'émission. Est-ce qu'il faut recourir à des motivations surnaturelles de la part de Dieu, et ce seraient lesquelles? Moi, à mon avis, je ne l'ai jamais lu nulle part, mais je crois que ce bouillonnement du sang, est-ce que ça ne veut pas dire que le sang d'un martyr, comme le sang de tout chrétien véritable, et de tout évêque qui ont, ce grand évêque, Saint-Janvier, grand par sa sainteté, grand par son adhésion à l'Évangile, grand par sa mission qu'il a remplie, eh bien, son sang bouillonne. On doit avoir un sang bouillant. Un sang vibrant. On doit être animé par l'Esprit Saint. Rien ne sert d'avoir une âme si c'est une âme qui dort. Notre âme doit être éveillée. Éveillée. Les orientaux nous parlent de l'éveil, et on lit ça dans les livres bouddhiques, et on trouve ça très beau. Oui, notre éveil, si ce n'est que quand notre sang bout d'amour, notre âme est pleine d'amour. Je prends un témoignage d'un homme extrêmement important dans l'histoire, qui a vécu il y a 500 ans, Pic de la Mirandole. C'était pas quelqu'un qui se laissait illusionner par n'importe quoi. Il est mort en 1494. Il disait, au moment du phénomène, la matière liquéfiée acquiert rougeur, fluidité et tous les autres caractères du sang. Quant à Montesquieu, bon, qui est mort en 1755, homme profondément brillant et intelligent, il disait, je puis déclarer que le miracle de Saint-Janvier n'est point une supercherie. Les prêtres sont de bonne foi. Cessons de croire que tout ce qui nous vient de Naples n'est que superstition. Essayons d'étudier, en tous les cas il est incontestable, qu'il se produit de temps en temps, à Lourdes ou ailleurs, des guérisons chez des malades dont la vie se trouve soudain bouleversée par cet événement. Et ce qui pose problème, évidemment, c'est l'idée d'une intervention directe de Dieu dans le corps d'un être humain. Il y a des gens qui sont incapables d'accepter ça. Même des théologiens que j'ai rencontrés, je suis surpris. On peut admettre que Dieu convertisse en un temps record l'âme d'un incroyant, convertisse son cœur. Mais on a beaucoup de mal à admettre que Dieu puisse, ils disent le s'abaisser, voyons, à agir directement dans un corps pour le guérir. Il s'abaisse pas, il est là. Une guérison prétendue miraculeuse, disent-ils, est-ce que c'est pas simplement une action particulièrement spectaculaire, là, du psychisme d'un malade sur son organisme? Et ça arrive, hein? Ça arrive, c'est psychosomatique, comme on dit. Faut faire attention. C'est pour ça que l'Église est extrêmement sévère avec les miracles. Et à Lourdes, on n'en reconnaît que très peu. Bon, ce serait une action dont on commence seulement à découvrir toute la puissance. C'est surprenant, le corps humain, l'esprit humain, l'affirmation d'une action directe de Dieu sur le corps d'un patient. Est-ce que ça ne relève tout simplement pas d'une mentalité, dit-on, pré-scientifique, complètement dépassée aujourd'hui? Et pour croire encore au miracle, il faudrait en somme avoir dans l'esprit l'idée d'un Dieu qui intervient sans cesse dans son cosmos qu'il a créé pour satisfaire les besoins des hommes, puis il lui interviendrait aussi pour punir leurs fautes. En somme, être encore prisonnier d'une mentalité mythologique, c'est le cas de bien des gens, et j'avoue que j'en ai rencontré. Tel que pouvait l'être d'ailleurs la mentalité de nos ancêtres, lorsqu'ils s'estimaient eux-mêmes personnellement responsables de la marche de l'univers. Et encore aujourd'hui, bon, on le sait, il y a des hommes dans différentes religions qui s'imaginent, sérieusement, là, il ne faut pas les blâmer, que l'eau se met à tomber, là, la pluie se met à tomber sur les récoltes, parce que leur sorcier ou quelqu'un a bien accompli les rites indispensables pour déclencher la saison des pluies. On appelle ça les danses de la pluie. Et ils s'imaginent que certains gestes religieux vont changer, on peut dire, le fonctionnement de la nature. Bon, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Cette mentalité mythologique, de toute façon, qu'on retrouve chez ceux qui croient encore qu'en priant Dieu avec confiance, ils peuvent obtenir la guérison d'un malade, disent certaines personnes aussi qui nous attaquent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a un chrétien qui est allé dans une conférence très très loin, c'est Bultmann. Dans Nouveau Testament et Mythologie, il avait fait ça il y a plus de 50 ans, en 1941. Rudolf Bultmann réclamait la démythologisation des récits de miracles qui remplissent le Nouveau Testament et était un des premiers, disant qu'en cette époque moderne, on ne devrait plus être capable de croire même aux miracles du Christ. C'est terrible. Ce texte nous montre que certaines interprétations de l'Écriture sont loin d'être neutres. Elles se font à partir, certaines interprétations du Nouveau Testament, là, d'une négation a priori de toute possibilité pour Dieu d'intervenir dans le monde. Ils croient que Dieu ne peut pas intervenir dans le monde. Pourtant, ils se disent chrétiens. Alors évidemment que les athées qui ne croient pas en Dieu ne croient évidemment pas que Dieu peut intervenir dans le monde. Ils n'y croient pas. Alors, ensemble, on va étudier les principales objections qui sont avancées de nos jours contre la réalité et la possibilité même des miracles. On va penser à la réponse que l'on peut y donner, puis la signification des miracles pour nous. Est-ce que ça a un sens? Le chrétien qui se sera en quelque sorte réconcilié avec l'idée que Dieu intervient là, de temps en temps aujourd'hui pour guérir un malade, bien, il sera prêt, je me semble, à scruter, sans a priori défavorable, les textes plus anciens qui parlent de faits similaires. Je vous en raconterai un extraordinaire. Il sera plus tenté de les lire à travers une grille réductrice, comme l'a fait Rudolf Bultmann, ce grand théologien protestant. Il va se dire peut-être, si Dieu accomplit des miracles aujourd'hui dans son Église, il a pu en faire aussi au temps du Christ. Mais oui, parce que quand on lit les miracles qu'on nous raconte dans l'Évangile, beaucoup de gens aujourd'hui, même croyants, haussent un peu les épaules intérieurement, ils n'osent pas rien dire. Mais on va voir tout d'abord les objections. Ils disent que les miracles, ça ne peut pas être l'œuvre de Dieu. Ils disent que Dieu se contredirait lui-même en guérissant de temps en temps un malade dans un lieu de pèlerinage. Ils s'imaginaient que Dieu brise de temps en temps la belle ordonnance de l'univers là, pour satisfaire des petits caprices des hommes, que ce serait une pensée sacrilège. Ils disent « Osez supposer que Dieu fait des miracles, c'est Voltaire qui dit ça, équivaut à l'insulter impunément. » Beaucoup d'autres se sont mis à dire la même chose. D'ailleurs, si le Christ est capable de multiplier les pains, pourquoi ne règle-t-il pas, disent-ils, lui-même, tous nos problèmes économiques? Qui a dit ça? C'est Dostoïevski, vous savez, dans les Frères Karamazov. C'est le reproche là, que le grand inquisiteur adresse à Dieu, dans un célèbre passage imaginé par Dostoïevski. Les miracles, c'est ce qu'on dit aussi, sont trop rares, trop discrets pour être l'œuvre du Tout-Puissant. Des petites choses. Il prétend qu'on n'a jamais vu de jambes repoussées dans un lieu de pèlerinage. C'est pas si sûr. Pas si sûr. Nous verrons ça plus tard. On dit aussi que les miracles recevront un jour une explication scientifique. Ça, c'est répété continuellement. Nous sommes, disent-ils, qu'au tout début de l'ère scientifique. Bon, puis c'est une question d'autosuggestion. Même, c'est une motivation dont les gens hystériques un peu, n'ont pas conscience, mais qui seraient puissantes. Puis, il leur arriverait de guérir subitement de la même manière, hein, une autre façon de se faire remarquer. Ils sont malades à cause de leur psychisme, puis ils sont guéris à cause de leur psychisme. Mais c'est vrai, ça arrive, et ça arrive assez souvent, je crois. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement ça. D'ailleurs, on dit qu'aucun miracle n'a été constaté jusqu'ici avec toutes les exigences critiques de la science contemporaine, c'est-à-dire en laboratoire, sous l'œil exercé de toute une équipe de chercheurs. C'est vrai que ça n'arrive pas sous le coup, mais il y a eu quand même des miracles qui ont été filmés. Ça a été filmé, oui. On dit aussi que les miracles ne peuvent pas fonder une foi adulte. On dit que faire reposer sa foi sur l'existence de guérisons corporelles accomplies ici ou là, là, sur la planète, c'est faire dépendre sa foi en Dieu, ce qu'on a de plus personnel, quoi, et de plus intérieur. Ce serait faire tout ça dépendre d'événements extérieurs. Mais comment Dieu peut-il nous inviter à une telle démission, disent-ils? C'est une question sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Alors, je vous disais qu'il y a des gens qui disent que la foi doit être plus pure, elle ne doit pas s'établir sur des miracles. Bon, je suis bien d'accord dans un sens, mais je crois que les miracles sont des signes qui peuvent nous aider, nous soutenir dans des moments de faiblesse et de moments de noirceur. Quand notre âme a l'impression comme d'être dans un tunnel un peu sombre, un miracle, ça vient nous aider, il me semble. Mais quand même, il faut bien avouer que Jésus semble pas accorder, lui, dans l'Évangile, tellement d'importance aux guérisons. Celui qui se réalise à son contact, il les accomplit par pure miséricorde envers les malades qui s'approchent de lui. Il reproche aux foules qui le suivent de rechercher toujours des signes. On voit ça dans Saint Luc au chapitre 11, Saint Jean au chapitre 6, un peu vers la fin des chapitres. Et il dit à Saint Thomas, lui reproche d'avoir eu besoin pour croire, de voir et de toucher ses pieds transfigurés. Est-ce que c'est trahir l'Évangile que de recourir donc à des miracles pour soutenir sa foi? Il me semble que non quand même. Il y en a aussi qui disent, si les miracles étaient des signes valables, tous les témoins oculaires d'un miracle auraient automatiquement la foi. C'est loin d'être le cas, il suffit de penser à tous les Juifs qui ont pu voir Lazare ressuscité quelques jours après son enterrement. Ils n'en ont pas moins décidé de faire mourir Jésus, je vais vous parler un jour de Saint Lazare. Il suffit d'évoquer le cas aussi exemplaire d'Alexis Carrel. Je vous l'ai tout raconté sur le 8 septembre 1995, ça fait déjà plus de 2 ans. Ce cas d'Alexis Carrel qui a mis 40 ans à se convertir, malgré la guérison exceptionnelle qu'il avait analysée de Marie Bailly, je vous avais tout raconté ça. Cette guérison fantastique s'était accomplie sous ses yeux à Lourdes le 28 mai 1902. C'est bien la preuve, disent certains, donc, que les miracles n'ont aucune valeur. Pas si vite, à mon avis. Il me semble bien plus simple de dire que les miracles sont l'œuvre d'un Dieu souverainement libre. Dieu reste fidèle à lui-même, en mettant toute sa toute-puissance au service de son œuvre. Son œuvre, qui est une œuvre de libération puis d'amour, c'est tout. Et Dieu ne bouleverse l'ordre de la nature que pour manifester sa venue parmi nous, sa présence. Sa douce présence. Si l'ordre des corps était le seul ordre de la création, la notion d'exception aux lois naturelles paraîtrait, c'est sûr, impensable. Mais l'ordre des corps n'est pas le seul qui existe. Déjà, il y a le surgissement des libertés humaines au sein du cosmos qui change bien des choses. Ça y introduit des événements, notre liberté, qui ne sont nullement obligés de s'y produire. Exemple. D'où vient l'explosion d'une bombe atomique, si c'est pas dû à notre liberté? Ou une œuvre d'amour, comme celle de Mère Teresa, ça vient de sa liberté? Et toutes les sœurs qui font comme elle? Les milliers, les dizaines de milliers de sœurs? Sans compter tous les chrétiens qui font une œuvre d'amour, c'est de leur liberté, avec l'aide de Dieu. À bien plus forte raison, il me semble, Dieu est capable de bouleverser de temps en temps la marche du monde pour y manifester sa venue, sa présence. Quoi de plus rationnel pour la nature que de manifester, par une espèce de dérogation à son ordre habituel, que son Créateur vient la sauver, son Créateur vient la transfigurer, la nature. Et d'ailleurs, le plus souvent, le miracle n'est pas un fait qui se produit en dehors des lois de la nature, mais à côté ou au-dessus de ces lois. Il semble bien, par exemple, qu'une guérison miraculeuse respecte les lois habituelles de toute cicatrisation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que celle-ci, la cicatrisation puis la guérison, s'accomplit en un temps record. Ce qui en fait le caractère miraculeux, c'est la suppression du facteur temps. On dirait qu'il n'y a plus de temps. Ça vient, boum, en quelques secondes. Puis il n'y a pas de thérapeutique médicale quand ça se fait. Ça se fait parfois en une fraction de seconde, comme l'écrit le docteur Merlin. Il dit, le mécanisme intime du miracle nous échappe. Mais quant à nous, il nous semble que tout se passe comme si Dieu, source de toute vie, donnait au malade, pour quelques instants, une augmentation de sa vitalité, une hypervitalité, grâce à laquelle le miraculé répare, donc en une fraction de seconde, des lésions qu'il aurait peut-être jamais réparées. Ou qui aurait nécessité des années pour arriver à ce résultat. Ce qui fait le miracle, ce n'est en aucun cas le fait que la maladie guérie était incurable, c'est la disproportion entre la cause et l'effet. Hein. Pensez, humecter les yeux avec un peu d'eau, même médicamenteuse, n'a jamais guéri un décollement rétinien datant de plus de 7 ans, comme c'est le cas. Hein. On peut lire ça dans les cahiers de la ENEC, des cahiers médicaux. Il faut bien dire aussi que Dieu n'est pas injuste en n'accordant pas sa guérison à tous les malades. Puis la lui demande, avec confiance. Dieu en guérit quelques-uns pour donner à tout son peuple des signes bien visibles de sa présence. Et le grand but des miracles, c'est d'accroître la foi dans les cœurs. Hein. Les malades qui reviennent sans être guéris, même si c'est étonnant, leur joie est souvent d'avoir obtenu la grâce d'une plus grande foi en la tendresse de Dieu pour eux. Et en guérissant quelques malades, Dieu ne prétend pas supprimer le mystère du mal. On ne peut pas contester la discrétion avec laquelle Dieu accomplit ses œuvres de guérison. Ils sont rares. Ils sont rarement spectaculaires, mais... On dit qu'on n'a jamais vu de jambes, ni même de doigts repoussés dans les piscines de Lourdes. Et Pascal, Blaise Pascal, a beaucoup médité sur cette discrétion de Dieu dans ses manifestations miraculeuses. Il a même consacré toute une liasse de ses pensées, les fameuses pensées de Pascal. Il dit, je vous préviens, Dieu a voulu se cacher. Dans les signes que je vais vous présenter, il y a assez de lumière pour ceux qui veulent bien croire, mais assez d'obscurité pour ceux qui ne le veulent pas. Autrement dit, Dieu nous fait signe, mais nous laisse libres. Il ne veut pas forcer l'entrée de notre cœur. Dans l'histoire de l'Église, pensez au 13 octobre 1916, j'en ai déjà parlé longuement, au milieu des champs, la Fatima, là où on faisait brouter des animaux, il y a des milliers de pèlerins et de curieux qui attendaient sous une pluie battante le signe annoncé par les voyants. Et personne n'imaginait qu'ils apercevraient tous ensemble une triple danse du soleil dont ils furent les témoins émerveillés. C'est évident que le soleil en soi n'a pas dansé lui-même, n'a pas bougé. Mais ils ont tous eu la même illusion. Comment l'expliquer? Et après la pluie battante, tout était sec. Comment se fait-il? Je vous raconte un miracle extraordinaire. Il m'est même arrivé qu'un jeune amputé espagnol retrouve miraculeusement sa jambe. Vous direz que c'est pas possible. Bon, ben, je vous le raconte. Vous allez voir, vous croyez-le, croyez-le pas, c'est pas obligé. C'est l'histoire étonnante, donc, dont parle le cardinal de Retz dans ses mémoires. Un homme sérieux, le cardinal de Retz, quand même. Et l'abbé de Raux nous a donné le récit, appuyé sur une étude extrêmement fouillée des archives de la ville de Saragosse, en Espagne. L'homme à la jambe coupée, publié chez Fayard, en 1960. Puis, introuvable aujourd'hui, il faut aller dans les bibliothèques. En 1637, donc, un jeune espagnol de 20 ans, Miguel Juan Pellicer, a eu la jambe droite écrasée par la roue d'un chariot. Il a été hospitalisé dans la ville de Valence, puis transporté à l'hôpital Notre-Dame-de-Grâce de Saragosse. Il a été amputé de 5 cm en dessous de la rotule. Bon, en dessous de la rotule, là, plus de jambe. Pendant 3 ans, il était mendiant près du sanctuaire Notre-Dame-du-Pilier à Saragosse, frottant régulièrement sa jambe, étrangement avec l'huile des lampes du sanctuaire. Et d'innombrables témoins ont donc pu voir la cicatrice de son moignon. Il priait. Revenu à Calanda, son village natal, il continuait à y vivre de la charité publique. Quand, dans la nuit du 29 mars 1640, au moment juste avant la fondation de Montréal, quoi. Dans la nuit du 29 mars 1640, après avoir fait, comme tous les soirs, sa prière à Notre-Dame, à la Sainte Vierge, sa mère, il a été subitement guéri. Ses parents s'aperçurent, en montant se coucher, que les deux pieds de leur fils dépassaient de la couverture, les deux pieds. Le jeune miraculé était reçu à Madrid, à la cour du roi Philippe IV. Et un procès a été ouvert dès 1640, dès la même année, par l'archevêque de Saragosse, pour recueillir la déposition de tous les témoins, notamment des deux chirurgiens qui l'avaient amputé. En somme, Dieu ne manque pas d'humour, hein. Je le répète, il manque pas d'humour. De temps en temps, il déjoue les affirmations de ses théologiens qui disent que Dieu n'a jamais fait repousser un membre et ne le fera jamais. Ce qui est vrai, c'est que nous ne devons pas nous attarder à ces fémurus, d'accord, ni réclamer leur répétition, mais quand même, il y a d'autres cas semblables, d'ailleurs. Il y a même un prêtre ici, dont la jambe s'est allongée. Mais, puis un autre dont la rotule était blessée, qui peut s'agenouiller facilement aujourd'hui. On ne sait pas comment ça se fait. Et c'est curieux que les miracles ne peuvent être reconnus que par les yeux de la foi. Moi, j'ai la foi et je les reconnais quand je les vois. Et j'en ai vu. Je pourrais vous en raconter. Il est question, évidemment, étant donné Saint-Janvier, des questions des miracles. Et un des livres les plus intéressants sur cette question, tant débattue sur tous nos jours, c'est « Le miracle signe de salut » d'un jésuite remarquable, Louis Mondain, M-O-N-D-E-N, ou Mondain. Professeur à la faculté de théologie du Collège théologique jésuite de Louvain en Belgique. C'est dans une collection très sérieuse, Museum Lessianum, et c'est publié chez Desclés de Brouwer autrefois, il y a très longtemps, oh mon Dieu, il y a 40 ans, ou près de 40 ans. Alors c'est introuvable, je crois. Le miracle, le signe de salut, il faut aller trouver ça dans une bibliothèque, j'imagine. Mais c'est un très bon livre, c'est ce que j'ai lu de plus sérieux sur la question, c'est plus de 300 pages. Mais il y a bien d'autres livres. J'en ai des anciens, mais il doit y en avoir des nouveaux. Y a-t-il encore des miracles à Lourdes? Alors, 30 dossiers de guérison par le fameux docteur Olivieri, puis le don Bernard Billet. Il y a aussi les guérisons de Lourdes par Joseph Belnet, mais c'est des anciens livres, ça ne se trouve plus, je pense. À moins que ce soit réédité, c'est possible, qui sait. Puis la vérité sur Lourdes et ses guérisons miraculeuses par le docteur Auguste Vallée, publié autrefois chez Flammarion, il y a bien longtemps, les pages sont jaunies. Mais enfin, il y en a un aussi qui date de 1957, que j'ai beaucoup aimé, qui est bien fait, de Michel Agnellet, « 100 ans de miracles à Lourdes » avec un texte de Daniel Rops, là, aux éditions de Trévise à Paris, tout ça, mais c'est plein, hein, c'est des ouvrages intéressants à parcourir, je vous assure. Et il est évident, me semble, qu'on ne demande pas aux médecins, dont je viens de vous parler, de se prononcer sur la cause ultime de la guérison dont ils étudient, le dossier d'une guérison. On leur demande simplement de quoi? De dire si, dans l'état actuel de reconnaissance, cette guérison est explicable ou non. Bon, ça c'est comme médecin. C'est pour ça qu'à Lourdes, au grand ensemble, une espèce de conseil de médecins, de savants qui viennent du monde entier, il y a même des hindous, des athées, des agnostiques, des juifs, qui se penchent sur les miracles de Lourdes parce que ça les intéresse, ils vont passer quelque temps là, et ils analysent des faits auxquels ils ne croient pas. Eux, ils prétendent, dans certains d'entre eux, que ça va être expliqué plus tard. Mais les médecins croyants se gardent bien d'affirmer leur foi. Parfois, ils sont un peu, ils bousculent un peu les miraculés, même les croyants, c'est assez... Parce qu'ils en ont tellement vu de faux miracles qu'ils sont un peu impatients parfois pour leur pardonner. Même s'il est croyant, un médecin ne peut pas en tant que tel déclarer qu'une guérison est due à l'intervention directe de Dieu. C'est pas son rôle. Ce sont ses yeux de croyant qui seuls peuvent percevoir dans une guérison, là, qui est inexplicable, l'action même du Créateur. Il faut bien savoir que l'Église d'ailleurs, je l'ai dit, reconnaît bien volontiers que certaines guérisons peuvent s'expliquer par l'influence du psychisme sur l'organisme, notamment les maladies fonctionnelles, comme les gens qui se disent paralysés. C'est la raison pour laquelle le bureau médical de Lourdes ne retient jamais le dossier d'une guérison de paralysie, si celle-ci ne s'accompagnait pas de lésions organiques. Il est difficile d'expliquer toutes les guérisons par des facteurs d'ordre psychologique, me semble. Qui oserait expliquer par une influence psychique, par exemple, la guérison le 18 août 1938 du jeune Francis Pascal à l'âge de 4 ans? À 4 ans, sa paraplégie, sa cécité absolue, il était aveugle complètement. C'était des séquelles d'une méningite contractée plus tôt. Ça a été instantanément guéri. 4 ans. Demande dans une conduite magique. L'homme s'imagine mettre en branle des forces mystérieuses, hein, les magiciens, les gens qui croient toutes sortes de choses et qui s'assemblent dans des petits groupes là, de sectes, et en piquant des statuettes représentant ses ennemis. Il y a des sorciers, on voit ça. Ça se fait même à Montréal, qui espère bien blesser des ennemis à distance. Puis évidemment, si ça réussit pas, ben le sorcier est persuadé qu'elle a été entravée par d'autres forces spirituelles déclenchées par les pratiques magiques de son adversaire. Mais quand au contraire le croyant demande à Dieu de guérir son enfant, il ajoute « S'il te plaît, Seigneur ». Et un miracle est toujours la réponse, libre, souverainement libre, de celui qui est tout puissant et tout aimant, et qui répond à la prière de ses enfants. Les miracles sont dans la logique du mystère de l'incarnation, d'ailleurs, la rencontre personnelle de Dieu dans le cœur à cœur de la prière. Ça suffit pas à donner une foi solide. Il faut aussi avoir des raisons objectives de croire au passage de ce Dieu, du Fils éternel de Dieu dans l'histoire. Les miracles font partie de ces signes que Dieu accomplit au milieu des hommes pour manifester la venue de son Fils parmi nous il y a 2000 ans. Nous verrons tout à l'heure l'importance que Jésus lui-même attache au signe accompli par son Père pour accrédité sa mission. Hein. Il ne reproche pas à saint Thomas, je vous le dis tout à l'heure, d'avoir vraiment eu besoin de signes pour croire en sa résurrection. Comment expliquer pourquoi Jésus lui dit ces choses-là, hein? Il lui dit, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir exigé une manifestation spéciale pour lui, de ne pas s'être contenté du témoignage rendu par les autres apôtres. Quand les autres apôtres disent, « Nous l'avons vu ressusciter, Thomas. » Alors en disant, « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Jésus, le Christ, ne demande pas aux chrétiens de croire sans raison, mais de ne pas être aussi capricieux que Thomas. Il nous demande d'accepter de passer par le témoignage d'autres personnes sérieuses. Et quand ils ne sont pas eux-mêmes les témoins oculaires d'un signe merveilleux, alors c'est pas nécessaire d'avoir son miracle à raconter. Il faut être capable et assez intelligent de croire ce qu'on nous raconte quand c'est sérieux. Pas de croire n'importe quoi, là. Pas de croire n'importe quoi. De grâce, ne jetons pas le ridicule sur notre foi. J'ai déjà assisté malheureusement à certaines assemblées de prière où on criait au miracle à tout bout de champ. Soyons sérieux. D'ailleurs, les témoins oculaires d'une guérison spectaculaire ne sont pas forcément les plus grands croyants aussi, hein, il faut bien l'admettre. Il faut avoir reçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les yeux de la foi pour percevoir, dans une guérison médicalement inexplicable, ce que je dirais l'amour même de Dieu. Est-ce qu'il faudrait dire que tout se passe dans l'esprit du croyant qui interprète comme signe divin un phénomène purement naturel? Un prétendu miracle, voyons. Non, non. Les miracles sont bel et bien le résultat d'une action spéciale de Dieu dans la nature. Je le crois, je le dis, je l'affirme. On me dira ce qu'on voudra, c'est ce que je crois. Mais il suppose, pour être perçu comme tel, une autre intervention divine, celle qui se produit dans le cœur. Et grâce à la lumière de foi que Dieu nous donne, nous apercevons le signe objectif de son passage parmi nous. Dans ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière, c'est dans le psaume 36. Puis il est vrai que cette intrusion de Dieu dans l'histoire restera toujours pour l'incroyant une grosse pierre d'achoppement. Accepter l'éventualité d'un miracle, c'est pas se révolter a priori contre la possibilité d'une incarnation de l'Éternel dans notre histoire il y a 2000 ans. Telle est, je vais vous le montrer, la première signification que le Christ lui-même attache au miracle qu'il accomplit. Le Christ est vivant au milieu de notre peuple, de son peuple. Le miracle signifie que le règne de Dieu est là, que Dieu a visité son peuple. Jésus fait souvent appel au miracle qu'il accomplit pour accréditer sa mission. Lorsque dans sa prison, Jean fait demander à Jésus s'il est bien le Messie, ou si l'on doit encore en attendre un autre, Jésus répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Et qu'est-ce que vous avez vu, hein? Jésus dit, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est Jésus qui dit ça. Autrement dit, les signes du Messie annoncés par Jésus, par Isaïe, pardon, dans du chapitre 26, chapitre 29, chapitre 35, là, 61, bien, ça commence à se réaliser. Jésus ajoute à l'adresse de son précurseur, là, de Saint Jean-Baptiste, « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. »« Heureux es-tu, Jean, si tu acceptes de changer profondément ta représentation du Messie. »« Je ne suis pas, dit Jésus, en somme, celui que tu attendais au désert. »« J'ai rejeté la tentation de faire des miracles à profusion, comme le démon me le demandait, de changer en pain les pierres, puis de me jeter du haut du pinacle du temple pour étonner les foules. »« Non, j'ai refusé ça. » À la fin de sa vie, Jésus en arrive à dire, « Si je n'avais pas fait au milieu d'eux ces œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent qu'ils les ont vus, ils continuent à nous haïr, moi et mon Père. » Comment peut-on être témoin et ne pas dire ce qu'on a vu et ne pas y croire? Comment? Moi, les miracles que j'ai vus, je les ai vus et je les ai vus. Je ne peux pas dire le contraire. J'en porte témoignage un peu partout. Qu'on dise de moi ce qu'on voudra. Mais comment les premiers disciples de Jésus sont-ils arrivés à croire en lui? En étant les témoins du miracle de l'eau changée en vin à Cana, en Galilée. Tout au long de son ministère, les signes jouent un grand rôle dans la naissance de la foi dans le cœur de ses disciples bien-aimés. Dans les évangiles synoptiques, les trois premiers évangiles, Marc, Matthieu et Luc, mais aussi dans le quatrième, celui de Saint Jean. C'est pourquoi le quatrième évangéliste, Saint Jean, s'étonne de l'incrédulité de la plupart des responsables de l'époque. Il l'écrit au chapitre 12. « Quoiqu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui. Et cependant, parmi les dirigeants eux-mêmes, beaucoup avaient commencé à croire en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils n'osaient le confesser de crainte d'être exclus de la synagogue. » Alors, dès sa première prédication à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, Pierre va rappeler à ses auditeurs les signes dont ils avaient été témoins. Vous vous souvenez de ça dans le livre des Actes, au chapitre 2, on lit ça des fois. « Israélites, dit Saint-Pierre, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, des signes, comme vous le savez, eh bien cet homme, vous l'avez livré en le faisant crucifier. Mais Dieu l'a ressuscité. » Le Christ guérit nos cœurs, et dans l'Évangile, nous voyons le Christ qui dégage. C'est aux significations qu'il entend donner aux guérisons qu'il accomplit. En guérisant un paralysé, il manifeste son pouvoir de libérer les hommes de la paralysie de leur péché. En accordant la vue à l'aveugle-né qui va se laver dans la piscine de Siloé, il annonce les yeux de la foi que recevront les futurs baptisés. Ah, les yeux de la foi, si nous l'avions vraiment, nous changerions Montréal. Les miracles de l'Évangile préfigurent ainsi la transformation de nos cœurs par les gestes sacramentels de l'Église que les prêtres nous donnent. Comme il a guéri des lépreux, le Christ nous guérit de la lèpre et de nos péchés, les prêtres nous guérissent au confessionnal et à la messe quand on accuse nos fautes intérieurement, là, au début de la messe. Comme le Christ a redressé une femme toute recroquevillée sur elle-même, il nous délivre de nos replis sur nous-mêmes. Nos petites jalousies, nos mesquineries, nos craintes, nos angoisses. Comme le Christ a nourri toute une foule sur les bords du lac, eh bien, il nourrit la grande foule des chrétiens par son Eucharistie. Oh, les miracles sont enfin le signe avant-coureur de la transfiguration que le Christ va opérer à la fin des temps. Parce qu'il va revenir dans sa gloire. Une guérison miraculeuse sont une anticipation de cette libération définitive à laquelle est appelée la nature matérielle elle-même. Puis dans l'Épître aux Romains, la création sera libérée de l'esclavage, de la corruption. Les miracles signifient donc tout à la fois que les temps messianiques sont déjà là, que l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre parmi nous, mais qu'il n'est pas encore déferlé sur le monde comme il le fera au dernier jour lorsque le Christ viendra essuyer toute larme de nos yeux. Et c'est en adhérant pleinement au mystère de l'incarnation que le chrétien surmonte les réticences qu'il éprouve spontanément quand il entend parler de miracles, une intervention directe de Dieu dans l'organisme d'un malade pour le guérir n'est pas plus étonnante, en somme, que la venue de Dieu lui-même dans notre histoire en la nuit de Noël. Un certain nombre de contestations actuelles bien en définitive d'un manque de foi, me semble, au mystère de l'Évangile, c'est écrit « Le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Et les gens, sont pas sûrs maintenant. Il y a une cohérence, me semble, dans l'affirmation de tous ces différents mystères chrétiens. Comme il y a une logique dans leur remise en question aussi, si on veut, et ceux qui ne veulent pas entendre parler de miracles n'admette pas davantage le réalisme de la conception virginale du Christ, et combien disent que c'est pas vrai cette histoire-là, puis de la résurrection de son corps, on va dire le Christ n'est pas ressuscité, et puis que la présence eucharistique, on va dire que c'est pas vrai. J'ai entendu ça de la bouche de gens très sérieux qui disent qu'après la messe, les hosties ne sont plus consacrées. Mais c'est terrible! Ça se dit si sérieusement, Montréal, je l'ai entendu, je vous dirai pas de la bouche de qui. Je n'ose pas. Croire à ces mystères, c'est croire qu'il plaît à Dieu de réaliser dans ce monde des œuvres qui ne peuvent pas se produire selon les lois de la physique, de la chimie ou de la biologie. C'est croire au mystère de l'incarnation, finalement, puis à toutes ses conséquences. Et on voit du même coup comment répondre à ceux qui ne partagent pas notre point de vue. Comment répondre? En disant, vous êtes étonné que Dieu intervienne parfois dans le ventre d'un cancéreux pour le guérir? Alors commencez donc par vous étonner que Dieu ait pris un ventre humain, celui de la Vierge Marie, des entrailles de chair pour venir parmi nous et nous sauver. Et c'est précisément pour manifester la descente du Verbe au milieu de nous que Dieu agit de temps en temps, de façon visible dans ce monde charnel, et il guérit en quelques secondes un corps souffrant. Il tient surtout, à changer chaque jour un peu de pain et de vin, partout à la surface de la terre, fruit de la terre ce pain et ce vin, fruit du travail des hommes, il les change au corps et au sang de son Fils, tout imprégné de son esprit vivifiant, jusqu'au jour où, par ce même Esprit Saint, il va renouveler la face de la terre. Je vous ai parlé au début de la fête de Saint Janvier. Saint Janvier, cet évêque martyr au IVe siècle, dans le sud de l'Italie, évêque de Bénévent. On conserve dans la cathédrale de Naples le sang de Saint Janvier dans un reliquaire. Il se liquéfie. Le miracle se répète chaque année à deux dates fixes. Le samedi avant le premier dimanche de mai, c'est la fête de la translation des reliques du Saint à Naples. Et le 19 septembre, c'est la fête du martyr de Saint Janvier, évêque, martyr, qui est allé jusqu'au bout, qui a versé son sang, qui se liquéfie, puis bouillonne. Un sang bouillonnant, un sang d'évêque qui bouillonne. Un sang d'évêque dont la foi est grande. Il est allé jusqu'au martyr. Et le sang en question est contenu, je vous l'ai dit tout à l'heure, en deux ampoules de verre, qui sont renfermées dans un double reliquaire en argent. Le premier date du XIVe siècle, puis le deuxième du XVIIe siècle. Les reliquaires, le reliquaire extérieur, qui est circulaire, se termine par un manche de 12 cm par lequel on le fixe à une grande châsse en forme d'ostensoir qui sert aussi pour le saisir. Et à l'intérieur des ampoules, là, sont en verre, évidemment, mais on voit une substance brunâtre. L'ampoule la plus grande, avec une capacité de 60 cm cubes, en est remplie à moitié. Dans la deuxième, d'une capacité de 25 cm cubes, on aperçoit quelques caillots et des taches. Et quand le miracle se produit, le volume des grumeaux augmente d'environ 72% en mai, et d'environ seulement 23% en septembre. Mystère, on ne sait pas pourquoi. La masse devient liquide, mais la liquidité est variable d'une année à l'autre, et même d'une fête à l'autre. Parfois, chose curieuse, le contenu des ampoules se présente comme un magma visqueux. D'autres fois, la liquidité est telle que les ampoules en sont presque remplies. La couleur aussi est variable. Du brunâtre, elle tourne au rougeâtre et au rouge brillant. Et les anciennes mesures, là, sur la variation de poids, peuvent pas être retenues. Elles ont été prises dans des conditions difficiles, avec des instruments qui ne garantissent pas l'exactitude. Mais par contre, les mesures de la température ambiante ont prouvé qu'il n'y a aucune interdépendance entre température et temps de liquéfaction. On a constaté une liquéfaction rapide en 13 minutes, à 25 degrés au mois de mai, et une liquéfaction lente, ça a pris 2 heures, à 30 degrés en septembre. D'autres fois encore, le magma est déjà liquéfié quand on ouvre le reliquaire pour l'exposer à la vénération des fidèles. Alors, le miracle de Saint Janvier, connu dans le monde entier, ça a provoqué les plus vives polémiques dès le 16e siècle. Que de gens se moquent de ça. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai l'impression que ça l'est. C'est une merveille pour les uns, c'est un scandale superstitieux pour les autres. Mais si je dis que c'est le sang d'un martyr qui bouillonne, qui nous rappelle que notre sang doit bouillonner aussi, et pourquoi pas? Alors, il y a des hypothèses sur hypothèses se sont succédées pour en donner une explication scientifique. Voyons, il n'y en a pas. Il faut honnêtement reconnaître qu'aucune n'a été scientifique. Il faut honnêtement reconnaître qu'aucune n'a été satisfaisante. Cela ne signifie pas qu'on n'y parviendra pas, mais des analyses plus rigoureuses s'imposent et les discussions vont bon train à Naples même. Ce qui n'est pas en discussion, en tous les cas, c'est l'existence historique du saint. D'un évêque de Bénévent, je vous le répète, martyrisé à Pouzolles, vers 305, pendant la persécution, avec ses compagnons Festus et Desiderius. Le culte est attesté dès la fin du IVe siècle par des documents littéraires et archéologiques, et des fresques à Nol, dans les catacombes de Naples, comme je vous ai dit au début de l'émission. Mais il semble bien que c'est avec la dynastie d'Anjou de France, je le dis parce que nous sommes d'origine française, en grande partie nous-mêmes, que cette dévotion a pris sa forme populaire actuelle. Hein? C'est peut-être pour ça que Saint-Janvier paraît avoir une prédilection pour les Français, on ne sait pas. Il y avait un roi de France, Charles VIII, qui a bénéficié d'une liquéfaction extraordinaire en 1495. Et Robert Gauguin, à l'époque, a écrit ce texte en très vieux français. On retrouve ça dans les documents. La mère des chroniques et miroirs historiales de France, en 1536. Voici le texte, c'est très bref. Le dimanche, troisième jour du mois de mai, je vous le lis en vrai français parce qu'en vieux français, c'est un peu compliqué. Le dimanche, troisième jour du mois de mai, le roi a entendu sa messe à Saint-Genis. En la grande église cathédrale de Naples, Genis, c'est Saint-Janvier, on lui apporta du précieux sang de celui saint, dedans une grande ampoule de verre, dure comme pierre, mais après qu'il fut un peu posé sur l'autel, il commença incontinent à s'échauffer et à se ramollir comme ce fut le sang tiré récent d'un homme vivant. Étrange document, hein? Mais c'est ça qui arrive encore aujourd'hui. Mystère. Moi, je me dis, nous devrions avoir une âme bouillante. Le sang, c'est l'âme, comme je vous ai dit au début de l'émission. Le sang, c'est l'âme. Avoir une âme bouillante, ça veut dire avoir une âme bouillante d'amour pour Dieu et pour les autres, pour l'Évangile, pour l'enseignement que Dieu veut que nous apportions aux autres autour de nous. Je voudrais plus souvent chanter notre rencontre, Seigneur, pour exprimer la joie que tu fais déborder en celui qui se livre à toute ta présence. Oh, je voudrais la chanter pour renvoyer l'écho de ce chant mystérieux, de sourire et de paix que tu fais résonner au plus profond de moi. C'est une prière de Jean Gallo. Je me suis inspiré aujourd'hui du beau livre de l'abbé Pierre Découvement, paru aux éditions du Cerf. C'est le guide des difficultés de la foi catholique.